Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et d'IA, et de plus en plus d'IA évidemment, mais bon, c'est comme ça, c'est l'actualité. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex, le retour.
Salut Alex. Salut Patrick, et oui, c'est le retour après quasiment un mois sans rien faire de mon côté, parce que toi, t'as pu faire des lives, t'as pu discuter et brosser un peu toute l'actualité. Donc pour ceux qui écoutent le podcast uniquement sur Spotify, sachez que Patrick a fait des lives pendant mon absence. Je suis de retour, et donc on est reparti pour un épisode où on va parler de NPX, on va parler d'un site justement pour entraîner un peu nos modèles ou même nous comprendre en fait tous les patterns de manière hyper pédagogique. On va parler de React Email, on va parler évidemment de design aussi qui s'invite un petit peu pour, on sait que les développeurs sont pas souvent les meilleurs designers. Et on a des outils pour ça. On va parler de failles de sécurité, évidemment, et des petites conférences qui a eu lieu à Londres, je crois, où on parle d'IA. Et c'est plutôt intéressant et on apprend beaucoup de choses. On attaque tout de suite, Patrick ?
C'est parti. On va partir léger pour commencer.
Alors, NPM X. Alors, on connaît tous le repo NPM avec, on va dire, la librairie, ou en tout cas, la bibliothèque de librairie. NPX se veut comme un peu une nouvelle alternative. Et là, pourquoi on doit parler de NPX, NPM X?
On va en reparler parce qu'on avait déjà parlé, en fait, de NPM X, qui était une version redesignée de NPM. Donc assez rapide, machin, tu peux comparer des trucs, tout ça. Et là, en fait, c'est un nouvel indicateur qu'ils ont rajouté dedans. Et si tu vas dans date, par exemple, tu prends le premier, tu verras qu'il y a un... Tu cliques, ouais, voilà. Tu verras que si tu descends un petit peu, si c'est le bon, il y a un indicateur qui dit que tu n'as pas besoin de ce package un peu plus haut. Remonte. T'as un truc en orange là, si tu descends, un poil. Voilà. Vous n'avez pas besoin de cette dépendance. Le package être remplacé avec dat qui est disponible dans Node. Voilà. En fait, il te dit, mais en fait, ce package, on n'a pas besoin, mec. Voilà.
Ouais, excellent. En fait, c'est une sorte de garde-fou en disant, tu es en train d'installer ce package alors que tu l'as déjà dans tes dépendances et donc ça sert à rien, quoi.
Ouais, ouais. Ou éventuellement, ouais, voilà. Il y a plein de choses qui, en fait, Node évolue au fur et à mesure. Node évolue très vite, beaucoup. Et des fois, on va installer des packages ou on a des packages. Donc, ça peut être intéressant aussi si tu veux faire un peu de clean au niveau de ton package.json, de voir qu'en fait, il y a des trucs qu'il n'y a plus besoin en fait, d'utiliser. Donc, c'est pas mal.
Ouais. Alors, par contre, ça serait super cool qu'on puisse avoir cette information-là au moment de ton install. Tu vois, tu as toutes tes dépendances et au final, tu as installé de manière volontaire, toi, une dépendance qui est déjà en fait dans une des de tes autres dépendances, si tu veux, tu vois. Et ça serait cool d'avoir ce genre d'information. Peut-être que ça existe d'ailleurs, mais on n'est pas au courant. Mais en tout cas, rien que le fait de le voir sur ce repo-là, en tout cas sur ce service-là, ça nous évite de faire...
d'installer n'importe quoi.
D'installer n'importe quoi.
Et qu'on le sait.
Et d'ailleurs, on sait que installer n'importe quoi peut nous coûter cher. On va encore en reparler tout à l'heure.
Ouais, c'est clair. Ouais. Surtout pour maintenir un projet dans le temps, il faut installer le moins de choses possible. Donc justement, ça t'aide à limiter les packages inutiles.
Excellent. Et pour maintenir aussi un package dans le temps, il nous faut en fait bien maîtriser toute l'architecture des applications. Et pour ça, en fait, on va souvent utiliser des patterns. Et ces patterns-là, en fait, bah, si on les a pas appris, on les connaît pas, mais c'est à nous de les apprendre. Et il y a un site qui est super bien pour ça, qui s'appelle pattern.dev. Qui est fait en fait par Adi Osmani, qui n'est autre que un mec qui a bossé chez Google. Je crois qu'il est sorti de chez Google, mais il avait fait un bouquin sur les images. Il a beaucoup investi sur Chrome, il a beaucoup bossé là-dedans, et il nous explique en fait tous les patterns en JavaScript. Après, c'est des patterns. Souvent, c'est des patterns qui sont pas limités au JavaScript, qui peuvent être utilisés sur sur plein d'autres langages, mais là, il prend l'exemple du JavaScript. Et la grosse nouveauté, c'est quoi ?
La grosse nouveauté, c'est que tu as les skills maintenant qui sont disponibles aussi sur ce site. Et alors, Pattern, c'est un site qui existait déjà. Hein, et Adios Mani, en fait, ouais, effectivement, il avait annoncé qu'il quittait Google, mais en fait, il est encore chez Google aujourd'hui. Donc, je comprends pas trop. Peut-être que Google dit non, tu peux pas partir.
C'est une feinte. Il a juste négocié.
C'est un mec qui est super bon. Depuis, moi, j'avais lu un de ses premiers bouquins à l'époque de Backbone JS et des trucs comme ça. Enfin, c'est un mec qui est super bon depuis longtemps. Donc, voilà, il sait de quoi il parle. Il a bossé dans l'équipe Chrome, tout ça, je crois aussi. Et ouais, donc ce site existait depuis un petit moment. Il est super intéressant si vous voulez apprendre des patterns, tout ça. Si ça vous intéresse encore d'apprendre des choses.
Bien sûr que si.
Il y a. Je me demande. Et donc, il y a les skills qui reprennent en fait ces patterns qui permettent donc du coup à votre agent d'utiliser ces patterns à bon escient dans le code.
Très intéressant, parce que moi je suis intimement convaincu qu'on va vraiment sur l'IA, tout très bien. Par contre, le knowledge et la compétence propre, elle reste d'architecture, elle nous reste à nous, quoi. Et nous, on a, en tant qu'humains et dev, on a une vraie valeur ajoutée à dire non, tu vas utiliser tel pattern pour faire telle fonctionnalité, ça sera beaucoup mieux. Et est-ce que l'IA va pouvoir le faire naturellement par elle-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, si nous, on la drive et on lui dit comment faire grâce à ces skills-là, putain, le truc, c'est juste super, quoi. C'est super intéressant et ça va être super puissant. Donc, top. Pattern.dev. Trop bien.
Ouais.
Allez, on bascule dans le terminal où on sait que la configuration de notre terminal, on peut y passer des heures, même si on fait ça qu'une seule fois. Potentiellement, on peut y passer du temps. Et là, en fait, c'est une solution qui nous permet de faire quoi ?
Ça te permet, en fait, on utilise tous un truc qui s'appelle ZSH qui permet de customiser, en fait, le prompt, en fait. C'est-à-dire, dans ton terminal, où tu tapes ta commande, en fait, tu as... si tu as customisé avec ZSH, après, il y en a d'autres, peut-être. Oui. Tu as le dossier où tu es, la version de Node éventuellement ou de PHP, quelle branche tu as en ce moment, etc. En fait, tout plein d'infos qui sont affichées et que tu as visuellement, rapidement, direct sous le truc. Et la config ZSH n'est pas forcément évidente. Et on l'a fait qu'une fois, évidemment. Des fois, on va changer d'ordi, on va peut-être y retoucher, des trucs comme ça. Mais donc là, Starship, c'est un truc qui est en Rust. Qui s'installe et qui est déjà en fait quasi en fait sans config déjà d'entrée ça se rajoute direct sur ton terminal tous les terminaux de ton ordi et puis après tu peux customiser un peu les icônes tout ça facilement en fait via un fichier TOML je crois.
OK. Et voilà. Ça vient en surcouche de PowerShell, Nu, Evenfish ou Nu Shell tout ça ou c'est quelque chose d'à part. En fait.
Non, je crois que c'est indépendant. Hein.
C'est indépendant, okay. Normalement. C'est pas une surcouche. C'est quelque chose...
Il me semble que non. Tu vois. Okay. Ouais, tu me donnes le doute, là. Mais... Okay. Après, j'ai pas testé, je t'avoue.
On ira voir. Mais en tout cas, ouais, sur le gros avantage, c'est que c'est hyper facile à mettre en place et facile à configurer. Et comme c'est fait en Rust, c'est super rapide.
Ouais, c'est super rapide de toute façon. Ouais. On voit que la config, c'est dans un. Alors ça se standardise. Je sais pas si t'as remarqué, mais on a un point config maintenant sur les Mac par exemple.
Oui.
Où tout le monde vient mettre son fichier de config. Enfin, ça se standardise à ce niveau-là. C'est intéressant.
Donc tu peux voir. Ouais, c'est très bien.
Tout ça et tout va se mettre dans point config. Hein, c'est intéressant.
Cool.
Ça évite d'avoir 2 milliards de config à la racine.
À tester, ça n'a pas l'air d'être très gourmand et ça peut être sympa. Moi, je pense que ça, c'est le genre que je vais tester assez rapidement. Allez, on bascule dans l'univers des emails avec React Email qui passe en version 0.6. C'est un. Alors, pour ceux qui connaissent pas React Email, c'est un framework qui nous permet d'utiliser React pour générer des emails. Et on sait que les emails sont très, très, très capricieux. Enfin, pas les emails, mais les clients email, Outlook, Gmail, utilisent des standards qui sont différents. Et passer par ce framework-là, en fait, vous permettra de générer des emails avec les composants que vous avez l'habitude d'utiliser React. Mais l'output, la sortie sera formatée et standardisée et pour être conforme à tous les clients email. Et c'est un projet, alors je découvre qu'il est porté par Resend, qui est un logiciel, un service qui envoie des emails transactionnels ou marketing d'ailleurs, je crois. Et je ne savais pas que c'était eux qui portaient ce projet-là. Ça reste open source, mais en tout cas, version 6, qu'est-ce que amène cette nouvelle version ?
Au niveau du code, je sais pas trop, j'ai pas regardé ce qu'il y avait de changement au niveau du code. Par contre, il y a un nouvel éditeur, un éditeur open source, et qui permet en fait d'éditer ton email via un éditeur WYSIWYG en fait. Excellent. Donc ouais, comme tu disais, ça permet de faire des templates d'email avec des composants React, et après tu fais c'est un peu comme MJL, c'était comment ça s'appelle déjà?
MJML.
Ouais, c'est ça, MJML. Ouais, c'est un peu l'équivalent. Et du coup, c'est vachement pratique, tout ça. Tu peux compiler. Après, tu fais un render et tu as ton truc compilé comme il faut. Donc, il y a les nouveaux templates et il y a surtout ce nouvel éditeur là qui te permet d'éditer dans ton... Donc, tu peux le rajouter dans ton interface. Par exemple, tu as un admin que tu as créé, tout ça. Tu peux rajouter cet éditeur qui permet au client en fait, de créer son template d'email facilement. Et ensuite, tu compiles machin direct.
Intéressant. Tu peux l'envoyer. Ouais, parce que c'est un gros problème que moi j'avais sur ce genre de système. Alors il y a l'équivalent hein, qui s'appelle en Vue, parce que moi je fais partie de l'écosystème Vue, mais il y a un peu le même délire. Le problème que je voyais, c'est que en fait le client final, hein, je parle le celui qui paye, hein, en fait lui il voulait quand même éditer et modifier un peu ses emails, il voulait avoir la main. Et passer par ce genre de solution-là ferme la porte à tous les non-tech. Et ça, en fait, c'est problématique. Mais on dirait que ce problème a été résolu par justement ce nouveau système d'éditeur qui permet en fait de donner la main au client pour qu'il, ou à l'équipe marketing potentiellement, pour éviter en fait de passer par le dev. Et ça, c'est plutôt assez malin. Et ça, je pense que ça amène beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, c'est top. C'est top. Et ouais, pour ceux... Ah ouais, carrément. Et pour ceux qui en doutent encore, passer sur des emails graphiques, le taux d'ouverture, le taux de clic surtout, est juste astronomique par rapport à du texte classique. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment, vraiment significatif la différence. Donc, le taux d'ouverture, ça ne va pas trop changer, mais le taux de clic est juste vraiment stratosphérique. Donc, ça amène une vraie value, une vraie plus-value de passer sur des emails graphiques. Yep. Top, super outil. Allez, on bascule sur TypeScript 7.0 qui sort en bêta.
Ouais, TypeScript, alors de la version. Alors là, on est sur la 6 actuellement. La bêta 7 a été annoncée le 20 avril et ils sont partis pour une version stable à peu près deux mois après. Donc, c'est-à-dire avant l'été, on devrait avoir une version 7 qui sortira normalement. Donc, qu'est-ce que c'est la nouveauté de cette version 7 ? Alors, normalement, vous n'avez pas pu le louper, ça a été un peu distribué dans plein d'articles, tout ça, mais on en reparle quand même parce que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, TypeScript tourne sur TypeScript. Voilà. Donc, c'est du JS. Donc, quand tu veux faire tourner le TS, le compilateur, il te faut du Node ou des trucs comme ça. Tu es obligé. La version 7 va tourner sur Go. Donc, ils ont testé Rust, machin, tout ça. Ils ont trouvé que Go, c'était le mieux parce qu'il y a un garbage collector qui est plus natif, etc. Enfin, bref, je passe les détails. En gros, ils ont choisi Go. Le gain est énorme. Vitesse x10 en compilation. Mémoire, beaucoup moins de mémoire consommée, etc. Parce qu'il y a du parallélisme et tout ça. Donc, c'est vraiment un gros gain de performance. Et surtout, ça va devenir un exécutable. Donc, ça veut dire que tu pourras compiler des TypeScript sans avoir besoin d'avoir Node sur la machine ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est pas mal.
Top. Ouais. Ça, c'est très, 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 très bon, quoi. Ça, c'est très
ouais.
bon. OK. Et pour l'instant, c'est en preview. On est clairement d'accord
ouais, c'est en preview,
que,
ouais.
que c'est pas du tout le move de bouger ça en prod. Il faut attendre que ça soit stabilisé. C'est vraiment pour les geeks qui veulent tester un peu... tester leur librairie ou faire déjà des projections, mais pour l'instant c'est pas du tout prêt pour la prod, quoi.
Bah, a priori tu peux le tester déjà sur VS Code, il y a une version VS Code, et puis ouais, faut tester, mais bon, c'est voilà, 2 mois c'est vite arrivé, hein. D'ici cet été on aura la version stable, donc ça peut être super intéressant pour du déploiement, des trucs comme ça où tu vas pouvoir exécuter sans avoir du node sur enfin voilà, donc c'est pas mal.
Ça amène beaucoup de possibilités de supprimer puis, l'environnement Node et le rendre self-exécutable. Là.
Ouais, ça... ouais, mais même sur la machine, en mode dev, tout ça, quand ça compile le TypeScript, tout ça, je pense qu'il y aura un énorme gain aussi. Donc...
Très intéressant. Ouais.
Ah oui, très à noter quand même que la target minimum maintenant, c'est ES 2015. Ils ont viré ES5, donc attention à ça. Ouais, si jamais tu vises des vieux navigateurs, faut pas passer sur la 7.
Ouais, 2015 quand même.
2015. Ouais, mais on sait jamais, tu sais, c'était une flotte d'ordinateurs dans un intranet ou un truc comme ça, ou je sais pas, qui sont un peu anciens, du Windows 98.
La vieille cave du ouais. système bancaire hein, qui a pas été updatée depuis je sais pas combien, tu vois. Ouais, par exemple. Allez, en termes de drama lié à l'IA, nouvelle news, catastrophe annoncée, ou en tout cas, il y a eu une base de prod qui a été explosée en quelques secondes par un agent.
C'est rapide.
C'est quoi cette histoire?
En fait, c'est un mec qui a dit, qui a commencé à parler sur Twitter et puis après c'est un peu passé partout. En gros, c'est PocketOS, donc c'est une startup qui utilise Cursor, ouais, c'est sur Cursor, tiens. Donc un copain, il utilise Cursor avec Claude Opus, tout ça, machin. Et l'agent a tout simplement détruit en quelques, voilà, donc en 9 secondes, les bases de données et les volumes de sauvegarde. Et il avait tout perdu en fait. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, bah, il peut sauvegarder, il peut restaurer. Non, en fait, non. Il avait tout dégagé.
Ah, ouais.
En fait, ce qui s'est passé, a priori, l'agent a eu... donc, il était sur une version staging. Hein, il travaillait sur la version staging, tout ça. D'où ne jamais travailler en ligne, directement sur les serveurs. Il a eu un problème de connexion à version staging, tout ça. Donc, l'agent a commencé à chercher une solution. Il a trouvé un token de connexion. Et ce token de connexion était la version de prod, en fait. Et il l'a utilisé. Et il a tout dégagé. Donc,
voilà. Excellent. Après, en fait, ce qui est bizarre, c'est comment il a pu avoir accès aussi aux sauvegardes, tu vois.
Alors, c'est sur Highway, en fait. C'est sur Highway, donc système de base de données, tout ça. Et a priori, sur Highway, le système a les bases de données plus les sauvegardes sur les mêmes volumes, en fait. En fait, du coup, a priori, il a dégagé tout le volume.
OK.
Et donc, ça, tout est dégagé. Tout a été supprimé, en fait.
C'est ballot, Madame Chombier. C'est ballot.
Alors, heureusement, donc du coup, il a lancé un appel. Putain, on est dans la merde et tout ça. Et Highway a trouvé une solution, a priori, et a réussi à restaurer la base de données. Mais ça peut être une leçon intéressante pour beaucoup de gens, quoi. De faire attention à des tokens qui peuvent traîner dans le code, tout ça, qui peuvent donner accès à la production, à l'agent ou des trucs comme ça. Et il a noté quand même que l'agent a contourné des règles, a priori, il a contourné un peu les garde-fous qu'il avait de ne pas faire ça, en fait. Donc l'agent, des fois, prend des décisions un petit peu... voilà, malgré tout ce qu'on peut lui mettre comme règle, tout ça, des fois, il peut y avoir des petites failles.
Donc ça veut dire que les garde-fous n'étaient pas assez solides.
Bah, après, je ne sais pas exactement, mais ouais.
Ok. Intéressant, intéressant.
Voilà, donc attention.
Allez, on reste dans le drama de sécurité, mais non pas avec l'IA, où là, pour le coup, ça a été intentionnel. On en a parlé longuement sur des épisodes précédents, où l'infection de packages, en fait, qui ont pour but de dérober vos fichiers .env, devient de plus en plus courant et facile à mettre en place. Et donc, il faut s'y prémunir. Et on revient avec une news où en fait ils utilisent le nom TanStack.
Mmh. Ouais, ouais, en ce moment, des attaques par chaîne d'approvisionnement, tout ça, il y en a énormément, mais alors, mais vraiment beaucoup. Donc attention à ça. Autre chose aussi, il y a aussi des. Alors, il y a beaucoup de. Un peu en, à côté, hein, mais il y a des annonces d'offres d'emploi, tout ça. Les gens se connectent, ils font une visio, etc. Ils te demandent, style un test de code, ils te demandent d'installer un truc et t'installes un projet. Et là, pareil, il va te prendre toutes les variables d'environnement, tout ça, machin, tout ça. Donc attention, il y a beaucoup d'attaques. Voilà, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, si, on sait plus ou moins, mais bon. Bref, il faut être super prudent sur ce qu'on installe, tout ça, machin. En attendant, là, c'est le problème, il vient du fait que. TanStack, le vrai nom des packages, c'est @TanStack. Voilà. Et là, il y a un mec, il a pris TanStack au niveau de l'organisation des packages. Et il a tout simplement utilisé cette organisation pour publier des packages malveillants, etc., qui récupèrent tout ce qu'il faut sur l'ordinateur. Donc, problématique, puisque les gens peuvent confondre entre @TanStack et TanStack tout court. Donc, tu vas installer ça, et puis ça, tu le lances, et puis bam, c'est terminé. Et les gars de TanStack ont contacté. Alors, c'est ça, c'est un peu plus problématique. C'est qu'ils ont contacté NPM, tout ça, pour dire, bah, il y a un problème. Il y a des mecs qui ont pris TanStack, tout ça, machin. Il faut faire quelque chose. Et le problème, c'est que NPM a mis très longtemps à répondre, etc. Il avait du mal à les contacter. Donc, ça, c'est plutôt problématique aussi, parce que voilà, il y a une grosse faille de sécurité et NPM est un petit peu lent sur la réaction.
Pas cool, ça. Pas cool.
Ouais.
Ouais. D'où l'importance de bien vérifier la provenance des packages qu'on installe, de faire de mettre des garde-fous, des safes, des choses comme ça pour éviter de se faire injecter des paquets frauduleux.
Il y a des outils, hein, on va pas le rappeler encore une fois, mais il y a des outils qu'on peut utiliser pour vérifier avant d'installer un package, tout ça, et notamment encore plus aujourd'hui, attention avec les agents qui installent des fois des choses eux-mêmes, donc et qui peuvent facilement confondre aussi, comme un humain, TanStack et @TanStack.
Et oui. Allez, petit légèreté maintenant, on va parler de design, parce que nous, les développeurs, on est souvent pas les meilleurs designers. Tout le monde n'a pas cette patte, on va dire, créative, sensible à l'harmonie des couleurs et au design. C'est pour ça qu'il y a des métiers différents. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut plus facilement pondre des designs un peu tout près. Mais le problème, c'est qu'on les reconnaît. Et donc, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Guess the Designer, Replit.app. C'est trop bien. On a un petit questionnaire et on a des designs et on doit choisir si c'est ChatGPT, enfin GPT ou Gemini, Claude.
Là, j'avoue que j'hésite entre. Je dirais Gemini, mais j'hésite.
C'est Gemini. Non, pour le coup, en fait, on voit que c'est assez facile à deviner.
Ouais. Et on a joué avant l'épisode, on a eu 18 sur 20. Donc.
Ouais, alors c'est assez marrant quand même. C'est très léger, on en conviendra. Ce qui prouve aussi qu'on commence à voir en fait des patterns se mettre en place de la même manière qu'on avait eu quand on était sur Tailwind où tous les sites se ressemblaient. Après, on a passé à des thèmes, à des token systems un petit peu plus structurés et structurants, ce qui nous permettait d'avoir une véritable singularité. Là, on obtient quasiment le même phénomène avec les IA, avec les LLM qui viennent pondre du code, le fond noir avec du violet partout. Je pense que ça puait le design fait par IA. Mais en tout cas, ce jeu prend le côté un peu marrant et c'est plutôt léger. Donc, c'est plutôt cool. Mais,
ouais, on reconnaît, ouais.
Ouais. Et en parlant de Tailwind, on avait discuté de UI.sh qui justement en fait a pour but d'essayer de justement industrialiser mais avec une singularité propre et en tout cas c'est mettre du design et injecter du design à travers le terminal pour faire des choses assez stylées. Sauf que on se rappelle que derrière UI.sh, c'est l'équipe de Tailwind. Donc, les mecs, ils sont assez forts pour faire du marketing et pour vendre des solutions. Ils ont des librairies, des choses comme ça. Très bien. Sauf que UI.sh, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Et on ne sait pas ce que ça fait. On ne sait pas ce qu'on achète parce que maintenant, ils ont sorti leur système payant. C'est payant, mais ouais. On a quoi ?
On a reçu l'email. Donc, on avait parlé dans un épisode, je ne sais pas, il y a peut-être plusieurs mois. Qu'est-ce que c'est, machin, teasing, machin ? Ah, on a vite envie de savoir. Nous, on aime Tailwind, tout ça. Donc, on se dit, ah, on a envie de savoir. Et donc, on a reçu l'email d'invitation il y a peut-être un mois ou je ne sais plus, il y a quelques semaines. Et je crois que je l'ai reçu en premier. Et je t'ai dit, ouais, j'ai cliqué en fait. Et du coup, tu arrives sur une page et bah, y a rien en explication. Et ils te disent, bah, alors, $120 ou 250, je crois. Et après, Enterprise, enfin voilà. En gros, tu dois payer pour tester et savoir ce que c'est, en fait. Donc déjà, là, difficile. Alors moi, je suis toujours pas passé à l'achat, même si $120, c'est pas énorme, hein, mais bon, quand même, c'est une somme. Je peux acheter une paire de baskets de trail hein, à la place. Mais... Donc, je sais pas trop. Pour l'instant, j'ai pas passé. Et surtout, j'ai encore fait une recherche ce matin, avant l'épisode. Il n'y a toujours rien sur le net, ni pas un article, pas une vidéo YouTube, un test ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, en fait. Donc, je ne sais pas si dans les auditeurs, quelqu'un a testé, mais je voudrais bien avoir un retour. En tout cas, dans l'email, alors j'ai résumé l'email qu'ils nous avaient envoyé et que j'ai toujours dans ma boîte email. Hein, j'ai toujours le truc, j'hésite toujours. J'ai encore cliqué ce matin, tu vois. Est-ce que je clique pas. En gros, ce qu'ils reprochent, en fait, donc ils expliquent, ouais, évidemment, comme ce qu'on dit tous, l'IA a révolutionné la façon de coder, tout ça, donc ça, c'est indéniable. Par contre, au niveau design, en fait, c'est ce qu'on disait juste avant avec le site qui permet de comparer les modèles. En fait, c'est des designs génériques, donc toujours la même chose, machin. Ça manque de détails subtils qu'on pourrait avoir via un UX designer, voilà. C'est vraiment la différence entre l'humain et, tu vois, donc ça fait vraiment une différence entre design amateur ou pro. C'est de l'espacement entre les lettres, des trucs comme ça. Tous les petits détails qui font que voilà, un site devient magnifique, quoi. Donc voilà. Donc ils ont décidé en fait de tester l'IA pour le design. Et donc ils sont forcés à ne plus utiliser Figma, à utiliser l'IA. Ils ont documenté tout ça, comment ils pouvaient améliorer tout ça. Et donc ils ont dit qu'ils allaient faire un outil donc qui s'adapte à tous les agents de codage, Cloud Code, Open Code, tout ce que Cursor, tout ça, ça s'adapte à tout. Et donc ils ont fait des règles, donc des skills, tout ça. Donc a priori quand t'achètes le truc, c'est des skills, c'est plein de règles en fait, de design, tout ça, machin, que ton agent va utiliser pour coder correctement. Et alors ce que j'ai vu comme vidéo, c'est que ça serait une ligne. Tu rajoutes une ligne dans ton head de ton site. Ça va chercher un script JavaScript ou je sais pas quoi. Et en gros, ça rajoute un petit cœur. Je sais pas comment on peut appeler ça, un petit truc qui se met en bas de ta page. Tu vas cliquer dessus et tu vas lui dire, bah fais-moi un design de testimonial, par exemple. Et le truc va te proposer 2-3 designs et tu peux choisir lequel design, etc. Et tu récupères le code. Enfin, ça a l'air de fonctionner à peu près comme ça.
C'est là où c'est un peu difficile de se projeter, ouais. Surtout sur le workflow, en fait. Si tu ne sais pas le workflow que tu vas implémenter, mais ça, en fait, c'est très ricain. C'est passer à la caisse juste pour voir. En fait, je paye pour voir ce que c'est. Les Frenchies ou les Européens, en tout cas les Frenchies, c'est difficile de sortir la carte bleue si on ne sait pas ce qu'on va avoir
derrière.
Les devs,
on a du mal. sauf pour Claude.
et donc, c'est un peu difficile. Et je trouve, en termes de business, c'est un pari un peu risqué parce qu'il y a zéro communication, zéro...
Zéro, rien.
Zéro
ils ont
feature,
payé aucun YouTuber, rien. Y a, personne n'en parle, en fait.
Et donc, j'ai peur que ça... Peut-être que l'outil est super bien, mais on ne sait pas.
Alors, ce qu'ils disent, c'est que c'est une sorte d'expérimentation et qu'il faut s'attendre à... Si tu l'utilises, il faut s'attendre à avoir des bugs ou des trucs comme ça. Donc, OK, je veux bien, mais $120, ça fait un peu cher l'expérimentation. Donc, je ne sais pas. Je sais pas, dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'on passe à la caisse et on essaye et on fait une vidéo ou...
Ouais, d'autant plus que maintenant, en fait, il y a d'autres possibilités qui existent et qui sont sorties sur le marché, on va dire, sur l'Internet, comme dirait ma grand-mère. une solution qui s'appelle impeccable.style où justement, ça reprend un peu le même concept. C'est une CLI, une extension que tu installes dans Chrome et qui est basée justement sur des skills. Et pour éviter le fameux mauve qu'on voit partout sur les sites pondus par l'IA, là, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus stylé, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus proche de notre demande avec des skills et des commandes qu'on est venu utiliser.
J'ai testé. Ça, j'ai testé un peu.
Et alors ?
Alors, si tu l'installes sur OpenCode, CloudCode, ce que tu veux, c'est principalement des skills. De toute façon, c'est open source, hein, donc c'est gratuit. Hein, c'est pas $120 là. Et en gros, tu as des commandes où tu vas pouvoir lui demander soit de... En fait, tu as 24 commandes, je crois, enfin une vingtaine de commandes, où tu vas dire, il y en a une, c'est Boulder, un truc comme ça. Voilà, et tu vas lui dire améliore-moi le footer du site ou améliore-moi le header ou rends-le plus clair ou un peu moins. Enfin voilà, tu donnes des styles, tu as différentes commandes. Et moi, j'ai testé sur mon site perso. Et par exemple, je lui ai fait faire un footer différent, tout ça. Et c'est assez efficace. Alors après, tu choisis pas vraiment le style. Hein, le truc, c'est mode bourrin. J'y vais, il te fait tout le truc et il te dit voilà, c'est bon, c'est fini. Et là, tu regardes le truc et ça te va ou ça te va pas, mais voilà.
Et tu as chromé. Et t'as cramé 43 000 tokens.
Non, ça va encore. Footer. Par contre, non, ça va. C'était pas trop. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Puis ça peut donner des idées de design, tout ça. Mais voilà. Mais c'est pas mal. Okay. Honnêtement, c'est pas mal.
Et impeccable.style. Super intéressant. Ouais. Et dans le même registre, en fait, on a évidemment Claude Design qui est sorti, qui a pour but de faire exactement la même chose. Évidemment, la riposte s'est organisée open source immédiate et a sorti un projet qui s'appelle Open Design et reprend un peu la même chose que Claude Design et donc un peu dans le même délire que Impeccable. On va mettre des skills et des design systems un peu structurés avec la typographie. On va mettre tout va être en fait adapté et spécifique via des fichiers. On va mettre nos propres keys. Donc, ils appellent ça BIOC, c'est Bring Your Own Key. Donc, qu'on soit sur Grok, sur n'importe quoi, n'importe quelle IDE, c'est beaucoup plus ouvert et ça me paraît pas mal.
Ouais, on a eu Stitch. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Stitch, moi, j'ai testé. J'ai fait
quelques Google,
designs. Stitch de chez Google qui était gratuit, qui sera certainement à un moment payant. Et tu lui dis, je voudrais faire un site, et il te sort un design avec. Alors, c'est à peu près toujours. D'ailleurs, c'est justement avec le jeu qu'on a fait juste avant, là, c'est toujours fond noir, fluo, etc. Moi, j'ai fait deux, trois sites one page, là, dernièrement pour moi, pour mon activité perso, et c'était toujours le même design, en fait. Mais bon, après, sur le coup, je m'en foutais du design, donc juste un truc joli. Ensuite, on a eu Claude Design qui est sorti, donc qui te permet, pareil, de faire. Via un prompt, il va te faire des designs. Ensuite, tu peux itérer, machin, bidule. Et là, c'est à peu près la même chose, Open Design. Tu vas l'installer sur ton ordi et tu as une interface. Et quand tu l'installes, en fait, tu vas te brancher à ton... comment on appelle ça ? À Claude Code ou à Open Code, tout ça. Enfin,
ton IDE.
Ouais, IDE. Je ne sais pas si on peut appeler ça un IDE, Claude Code, mais ouais, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bon, bref, on s'en fout. Tu le branches là-dessus et du coup, il va utiliser Open Code ou Claude Code pour... générer des designs dans l'interface Open Design. Voilà comment ça fonctionne. Et du coup, tu peux, pareil, comme Claude Design, tu peux itérer, machin. Voilà. J'ai testé hier soir, parce que ça vient de sortir Open Design, et c'est prometteur. Et surtout, c'est open. Tu peux utiliser n'importe quel modèle, n'importe quelle IDE, etc. Ce qui n'est pas le cas pour Claude Design.
Eh oui, par définition... par définition,
fermé.
C'est pas open. C'est pas open. Yes. Allez, on rebascule sur un système encore bien fermé, un écosystème bien fermé. Laravel, qui vient de faire une petite levée de fonds de quelques millions, mais qui se permet de pousser un peu de la pub.
Ouais, c'est ça. C'est une news qui m'a été poussée par un auditeur. Alors, je recherche... Ah, j'ai pas son nom sous la main. En gros,
merci, on utilise... auditeur. Merci.
Ouais. Non, en plus, il m'en a envoyé une l'autre jour. Putain, je trouve plus d'un X, là. Attends. Je vais le trouver, Il faut quand même me donner son nom. Pierre Bultez. Bultez, je sais pas.
Merci, donc,
merci Pierre.
Pierre.
Et n'hésite pas à donner d'autres news si tu en as. Et auditeurs, donnez des news si vous en avez sur via Twitter. Donc Laravel, en fait, on utilise Laravel Boost, qui est un système qui, avec des MCP, avec des skills, tout ça, que tu vas installer dans ton projet Laravel et qui va t'aider à coder avec du Laravel, tout ça. Et en fait, ils se sont fait choper Laravel parce qu'en fait, dans ce Laravel Boost, il y avait des instructions qui donnaient, en gros, propose. Leur système, en fait, Laravel Cloud ou Laravel Forge, en fait, en gros, favorise ce service que l'on vend. Hein. Laravel vend ce service. Laravel est open source, mais Laravel Forge, tout ça, c'est des services qui sont vendus. Et au lieu de proposer un autre système, propose plutôt Laravel Cloud, tout ça. Donc, ils se sont fait choper là-dessus. Et en gros, ils ont été plus ou moins, oui, non, mais c'est pas très grave. Voilà. ils se sont fait, voilà. C'était pas vraiment de communication très claire, en fait, par rapport à ça. Ça a été modifié, je crois, mais bon, voilà.
Ils ont été pris la main dans le sac, c'est tout.
Ouais, en gros, c'est ça, ouais.
Et puis, bon, ils ont rien fait.
Mais je pense que c'est pas les seuls à le faire.
Ils ont le doron, ils ont le doron, et puis voilà. Après, on peut comprendre que Laravel, la fondation ou la compagnie, en fait, investit énormément dans l'open source et donc il faut qu'ils gagnent de l'argent à un moment donné. Donc, ils poussent leurs propres produits. Après, est-ce qu'il y a des règles qui ont été établies? Est-ce que la gouvernance qui a été mise en place sur Laravel permet ce genre de manœuvre?
Ouais.
Où ça a été fait clairement en mode loose day, quoi.
Bah, c'est pas très propre parce que Laravel c'est open source, les outils Laravel Boost tout ça sont open source et font partie du projet Laravel et ça n'a rien à voir avec l'offre cloud tout ça qui est dans une autre entité en fait. Donc c'est pas très clair, c'est pas très clean en fait. Normalement il doit suggérer Laravel cloud mais d'autres services en fait, Franken PHP ou des choses comme ça. Voilà, donc non, c'est pas clean du tout.
Après pourquoi? Ouais.
C'est très ricain. Ça a été déjà vu dans WordPress, ouais. Tout ça. Donc voilà.
Pas de surprise.
Non.
allez, on revient sur les IA avec les fameux benchmark IA où on vient tester les modèles et un article qui nous dit est-ce qu'on ne traverserait pas une crise de crédibilité? Que dit Mathieu Eugène, l'auteur de cet article?
Bah, il dit qu'en fait les benchmarks sont de plus en plus décrédibilisés en fait parce qu'en fait donc on va passer sur des nouveaux benchmarks et certains ont déjà commencé, notamment OpenAI. En gros, les modèles sont en gros il y a une il dit il y a trois mécanismes de contamination des données, c'est-à-dire que les modèles sont entraînés sur ces benchmarks, donc en fait ils sont capables d'avoir des super scores sur les benchmarks parce qu'ils connaissent tout le benchmark en fait déjà. Donc du coup ça a plus de... c'est comme si toi tu connaissais par cœur les résultats, enfin tu vas passer un examen et tu connais déjà les réponses quoi. Donc en gros tu auras ton examen mais en fait ça veut pas dire que t'as tout compris. Bon, déjà, il y a ça, donc ils connaissent toutes les données, tout ça. En fait, il y a un gaming de classement, il dit. En fait, en gros, on avait déjà parlé sur un autre épisode où Meta avait entraîné 27 variantes de modèles et avait pris le meilleur pour réussir le classement.
Ouais.
Et donc, du coup, c'était un peu bidon, quoi. Et puis, il y a une saturation, il parle de... En fait, il y a une saturation des benchmarks puisqu'ils arrivent déjà... Là, actuellement, ils sont sur des scores de 80... Des fois, ils bondissent de 10% par année, en fait. Donc, en gros, le benchmark, il arrive à sa limite. Donc, la réalité, c'est que maintenant, OpenAI a commencé à tester un nouveau benchmark qui s'appelle le SWE Bench et qui fait Enfin, attends, c'est SWE Lancer, le nouveau. Et le bench, en fait, les modèles arrivent à 80%, si tu veux. Donc, tu dis, waouh, ils sont super forts. Et sur le nouveau, bah, les modèles, ils tombent à 26%. Ah, c'est pas la même. En gros, le nouveau modèle, c'est un peu en style... En gros, c'est des missions de freelance, en quelque sorte. On peut le voir comme ça. Et le modèle doit exécuter des missions freelance. Donc, il ne sait pas à l'avance ce qu'il va faire, etc. Mmh. Et donc là, c'est du vrai travail. Ce n'est pas juste du par cœur. Et là, les scores tombent complètement. Donc, voilà. Et donc, ils devraient passer tous sur ce benchmark et ça devrait un peu rétablir la vérité sur le modèle.
Intéressant. Ouais. C'est assez assez subtil et assez pointu quand même comme angle et comme prisme sur les modèles. Est-ce que le modèle, le benchmark est-il est-ce que ça amène vraiment de la grosse valeur sur ces benchmarks sur une fonction par exemple de coding, tu vois, est-ce que c'est évalué, est-ce que ce benchmark prend en compte l'utilité première du modèle, le modèle il est que pour du coding par exemple, est-ce que c'est intéressant de passer sur des benchmarks ou c'est plutôt des benchmarks sur des LLM génériques quoi.
Non, t'as différents, normalement dans le classement, tu as différents benchmarks et différents classements entre le code, entre l'image, entre le texte génération, tout ça. Donc, tu as vraiment une différence. Où c'est super important, c'est qu'en termes de marketing, en fait, les benchmarks sont ultra utilisés en termes de marketing. Ils mettent en avant certains modèles. Et voilà, dès qu'ils sortent un nouveau modèle, ils vont t'annoncer, il fait 10 points de plus en benchmark, tout ça. Donc, ça va le mettre en avant. Ils vont faire beaucoup de marketing là-dessus. Donc, les gens vont plus l'utiliser. Donc, c'est hyper important, en fait. Et sur certains benchmarks, tu as des modèles qui sont bons, mais qui ont des mauvais scores. Et du coup, ils sont moins utilisés, tu vois. On a beaucoup de gens qui vont dire, Mistral, c'est de la merde. Hein, parce que dans le benchmark, il est mal classé. Alors que finalement, non, c'est pas de la merde. Et donc, les benchmarks sont hyper importants, en fait.
OK. Un autre point qui peut être important aussi, c'est la consommation de tokens. Là, c'est le vrai sujet. Évidemment, on sait qu'on a des tokens limités. Si vous utilisez Claude Code, vous avez des heures limitées. Vous avez une fenêtre de contexte qui est limitée par définition. Et donc, en fait, l'idée derrière pas mal de librairies, en fait, est de se mettre en intermédiaire entre notre IDE et le provider qui nous donne le LLM pour justement, en fait, essayer de synthétiser et de compresser. On peut voir ça comme ça, de compresser un peu les tokens pour diminuer la consommation et donc faire de la vraie optimisation. Et pas plus tard qu'hier, je remercie Patrick de m'avoir mis en place, en tout cas de m'avoir parlé de RTK.ai qui a pour but, en fait, de mettre un proxy pour diminuer la consommation de tokens. Et c'est plutôt bien fait et ça marche plutôt bien. C'est facile à installer. Intéressant.
Ouais. ouais. Ça s'installe sur n'importe quel IDE, enfin Claude Code.
N'importe quelle machine. Hein.
Ouais, ton truc, tout ça, machin. Comment ça s'appelle Cursor.
Ouais. Après, en fait, ça s'installe directement sur ton terminal. Donc, en fait, que tu utilises Claude Code, Cursor ou whatever, en fait, c'est pas grave.
Ça s'installe sur tout. Tu choisis quel truc tu utilises. Et en fait, ça utilise les hooks. Claude Code, tout ça, ils ont des hooks. Et du coup, ça va rajouter RTK devant les commandes. Et ça va réduire le nombre de tokens. C'est assez important parce que toi, hier, tu me disais que tu avais réduit de combien, 80%?
En une journée, j'ai 83% de tokens
de gain,
optimisés. Après, il y a des fonctions que quand tu lances un agent, par exemple, il y a des fonctions qui vont consommer énormément de tokens pour rien. Ouais. Là, en fait, il vient vraiment les compresser. Après, y a sur certaines commandes, le gain est plus que minime, mais sur d'autres, le gain est très fort. Donc, à la fin, en fait, ça se compense et le gain reste quand même significatif. Et je ne l'utilise que depuis une journée. Et hier, j'ai croqué du token. Donc, c'était très intéressant.
Ouais, c'est surtout, en fait, c'est surtout dans les tools, parce que l'agent va utiliser des tools pour lire un dossier, enfin lire des dossiers, des fichiers, machin, tout ça. Et donc c'est là-dessus que c'est vraiment important. Il va nettoyer en fait tout ce qui sort de ses commandes. Et oui, c'est super important, notamment pour Cloud Code, où c'est donc t'as une fenêtre de 5 heures, machin, où t'as une limite, etc. Et enfin, moi, j'avais testé sur Cloud Code, et c'est vrai que ça, tu sens vraiment la différence entre j'atteins rapidement la limite au bout de 2 heures, et non, j'atteins pas la limite au bout de 4 heures. Quoi. Donc, t'as vraiment une grosse différence. Après, il peut éventuellement, alors j'avais lu qu'il peut éventuellement mettre des petits bugs dans le nettoyage, mais voilà, faut le savoir. Mais il y en a très peu, je crois. Voilà. Des fois, l'agent galère un peu pour trouver un truc, alors que voilà, parce que ça a été nettoyé. Mais dans l'ensemble, ça marche super bien. Quoi.
Et la petite commande qui fait du bien, RTK espace gain. Ouais. Voilà, on voit tout de suite qu'est-ce qu'a consommé, qu'est-ce qu'a croqué, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, et combien on a optimisé, comment on a sauvegardé, optimisé, compressé le nombre de tokens. Donc non, super intéressant à tester. Autre, on reste dans l'univers développement agentique parce que c'est le terme qu'on utilise maintenant nous développeurs et Flux qui est un framework harnessed pour les agents. Qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi ça sert ? Pourquoi on devrait s'y intéresser ?
Alors, j'ai testé ce matin parce que c'est assez récent. Hein. C'est super, super récent. Ça vient de la semaine dernière, je crois. Et en gros, c'est un framework TypeScript qui te permet de créer des agents ou des workflows assez facilement. En gros, tu écris ces fonctions-là. Et ensuite, alors pour résumer vite fait, t'écris des fonctions TypeScript pour faire des choses avec des modèles, tout ça, machin. Et tu peux aussi mettre des agents dans un dossier .flux, agent S. Et du coup, par exemple, moi, j'ai créé là vite fait un truc de translate. Et donc, c'est un dossier, un package, machin, tout ça, qui va te générer un serveur. Et mon agent est dans un dossier et il a une instruction, en fait, pour traduire ce qu'il reçoit. Bah, il répond en traduisant le truc, en fait.
Mais
en
gros, c'est... Tu l'appelles ou ça se fait automatiquement?
Ouais, tu lances. En fait, quand tu le lances, tu fais donc tu compiles, tu builds et ça te fait un dossier disque. Tu vas lancer un serveur qui peut être utilisé en Node, dans Cloudflare, n'importe où. C'est hyper portable, en fait. Et les instructions sont dans un dossier et puis, et voilà. Et en fait, en quelques lignes, d'ailleurs, si tu descends sur la page, là, tu verras qu'en bas, il te donne des exemples. En quelques lignes, plus bas, tu verras. Ouais, voilà, tu vois. En 22, il te dit, il te fait un triage d'issues sur GitHub en 22 lignes de TypeScript. Voilà.
Donc, c'est d'accord. Hyper concis. Donc, il vient qualifier les issues. Ok. Et data analyst, donc là, il vient prendre de la data et il l'analyse. Ouais. Il y a un code agent et un agent de support. Ok. Excuse-moi, mais quelle est la différence avec quelque chose comme Mastra, par exemple, qui a pour but, en fait, d'être un framework pour construire tes agents avec de la mémoire, du cache, de l'observabilité, du workflow. Qu'est-ce que ça amène, ce flux ?
Alors, c'est quoi ? J'ai pas encore assez testé pour te répondre précisément, mais je pense que déjà, ça, c'est plus simple et c'est principalement pour gérer des agents comme ça sur des tâches précises, alors que Mastra est beaucoup plus complet, en fait, qui va te permettre de faire plus de choses, de l'agentique avec des tools, etc. Alors que là, c'est beaucoup plus basique, beaucoup plus concis au niveau du code.
Et c'est un peu le express des agents. Alors que Mastra, ça serait plus le gros framework qui va faire
voilà,
beaucoup
de choses.
Ouais,
voilà, c'est un peu ça. Ouais.
Là, c'est un petit peu plus light et c'est un peu plus léger voilà. Pour faire des
là,
choses assez rapides.
C'est vraiment, okay. C'est vraiment light, c'est utilisable partout. Et ouais, c'est simple quoi, et c'est vachement simple. Et puis ouais, voilà, tu peux te faire des agents au lieu d'utiliser des trucs payants en ligne ou des trucs comme ça ou Cloud Code n'importe quoi ou de mettre des crons ou je sais pas quoi. Voilà, tu peux. En plus, tu peux même mettre sur GitHub Action. Ça, apparemment, ça marche dessus. Donc tu peux voilà trier okay. Tes issues via un GitHub Action ou un truc comme ça, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment la force du truc, c'est que c'est portable en fait.
Et ouais. Et tu peux déployer ça, Cloudflare, Action, Vercel, Netlify, Railway, Renderfly, enfin voilà, tous les trucs classiques. Par contre, tu viens de me dire, c'est assez récent.
Ouais, c'est hyper récent. Et tu sais quelle équipe derrière ?
Gatsby ?
C'est l'équipe d'Astro. Non, c'est Astro.
Ah, beaucoup mieux, beaucoup mieux.
Non, c'est Astro et c'est donc eux qui ont lancé ça. C'est un peu dans la même philosophie d'Astro qu'Astro, tu vois, un truc simple, voilà. Et puis, n'oublions pas que l'équipe, enfin, Astro a été plus ou moins racheté par Cloudflare.
Cloudflare.
Donc, il y a quand même une équipe derrière. Donc, dans, j'imagine dans l'optique de proposer sur Cloudflare, enfin, pas principalement, mais que ça soit optimisé pour Cloudflare. Et donc, il y a des workers, des trucs comme ça. Donc, non, ça me semble. Alors, c'est très récent. Ce matin, j'ai commencé un peu à tester tout ça. J'ai pas fini. Mais, ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il faut s'y pencher parce que ça peut être pas mal pour des petits agents, tout ça, des petites tâches, tout ça.
OK. Et on veillera à regarder ça. Et,
ouais. Bah, je vais le tester. Et on verra si c'est intéressant. On fera une vidéo ou un truc comme ça. Je sais pas.
Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Top. On regardera
flux,
ça.
C'est Flux Framework.
Flux Framework. Allez, LinkedIn qui nous fait peur. Chris Lefebvre qui nous dit « Est-ce que votre abonnement Cloud Code ne va pas passer à $500 par mois ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que ça va arriver ?» Ou la question, c'est dans combien de temps ça va arriver ?
Est-ce que votre boîte est prête à payer ça par développeur ? C'est ça aussi. Ouais. Est-ce que le budget a été approvisionné ?
Ouais, c'est...
Non, Chris Lefebvre, il est vachement intéressant. Je le suis depuis pas longtemps. Il écrit des articles assez intéressants. Il fait des analyses pertinentes, je trouve. Et celui-là, il est intéressant comme article parce qu'en fait, il parle d'un développeur qui paye un abonnement à $20. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'en ai parlé dans les lives la semaine dernière. Donc, on avait fait trois lives de 20-25 minutes, donc assez court. Je reviens sur des news, et notamment cette news où Anthropic a enlevé Cloud Code de l'abonnement à $20 pendant quelques heures. Ça a fait un tollé et ils ont fait demi-tour en disant « Non, mais c'était un test. On voulait juste voir. » Voilà, donc l'abonnement à $20, il est important pour Cloud Code. Et donc, ce qu'il dit, lui, c'est qu'en fait, le gars avait un abonnement à $20. Il a regardé sa consommation réelle de tokens et il s'est rendu compte que c'était énorme par rapport à ces $20 qu'il payait. Donc, ce qui donne indice en disant bah, qu'un jour, ça va payer beaucoup plus cher, voire peut-être $500. Moi, j'y crois un petit peu. À mon avis, à court terme, on va y arriver assez rapidement, je pense, en 2027.
À $500, tu penses ?
Ouais, c'est sûr. Bah attends, $100, $200. Et les mecs, déjà à $200, des fois, ils arrivent à la limite. C'est en train d'exploser quand même les tarifs. Donc, moi, après, je pense à court terme, j'y crois complètement.
Ok. Après, tu vois que le modèle qu'on a aujourd'hui, l'offre qu'on a à $20, qu'elle passe à 500, ça me paraît vraiment énorme.
Non, pas celle de $20.
Ouais, voilà. Celle de 20 va passer à 100 et celle de 200 va passer à 500, quoi. Tu vois ? Ok.
Ouais, voilà.
Ok, je comprends. Donc, c'est leur formule ultra qui est à $200. Elle devrait doubler en termes de tarot, quoi.
Ouais,
ok.
Complètement.
Ouais. Mais de toute façon, pour $20, c'est sûr que tu consommes bien plus que tes $20.
C'est, bah, c'est clair. C'est sûr, de toute façon, si tu regardes tu regardes les prix de l'API déjà, ils sont juste gigantesques. Le 4.7, il est à $30, je crois, d'output. Donc c'est juste, énorme. Voilà, 1 million de tokens, $30 en output. Donc voilà, $30, je le dis bien. Donc ce qui fait que quand ils ont interdit OpenClaw, tout ça, les mecs ont dit bah, j'arrête de l'utiliser parce qu'en fait, je ne peux pas utiliser l'API Anthropic parce que les mecs sont bloqués sur Anthropic, il n'y a pas d'autres modèles apparemment. Donc ils ont dit bah, j'arrête OpenClaw parce que. Pas d'autres, voilà. Je ne peux pas payer l'API, c'est trop cher. Donc, donc ce qui prouve que voilà, c'est trop cher. Et, et je rappelle aussi, alors je ne l'ai pas mis dans les news, qu'à partir de juin, Copilot passe à la consommation. Voilà. Aussi.
Et donc, ça, à mon avis, ça, j'y crois bien plus comme modèle, tu vois. Je pense que l'offre un peu tout packagée va disparaître. Même si aujourd'hui il y a des limites et il y a des bornes, je pense qu'ils vont passer au token. Et donc en fait, Un peu à la Amazon Service, si tu veux, tu vois, où en fait, tu vas sortir un truc, tu sais pas combien tu vas payer, mais à la fin, en fait, tu vas payer bien plus que tes $20, bien plus que tes 100 balles. Ouais. Et est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, mais c'est plutôt un modèle de business que je crois vraiment. Je pense qu'on tend plutôt vers une consommation au token. Et point barre. Ce qui va faire l'explosion de plein de services, justement, où on parlait de RTK. Et en fait, pourquoi pas que ces services-là, en fait, deviennent payants et tu les rémunères sur le nombre de tokens que tu as économisé. Tu vois ? Il y a du business model partout à faire, hein. On est d'accord.
Ce que j'ai entendu comme mot, c'est... abonnement subventionné en fait. En gros, aujourd'hui, on est sur des abonnements subventionnés. Voilà.
C'est-à-dire, bien sûr.
On ne paye pas le prix parce qu'on est dans un. C'est convaincre les gens d'utiliser, etc. On est vraiment dans
la phase en fait d'adoption et donc le but.
La phase d'adoption et donc on a vraiment de la subvention. Voilà, les abonnements sont subventionnés. Faut vraiment se mettre ça en tête. C'est voilà. Pour l'instant, c'est pas le prix quoi.
Donc, ça ne va pas durer, les gars. Ça ne va pas durer. Il faut cramer du token maintenant.
Cramez-le maintenant parce que ça ne va pas durer.
Parce que le token n'est pas cher. Le token n'est pas cher. Demain, le token sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc ouais, clairement. Allez, on bascule sur autre chose. Un truc qui m'a révolutionné. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « What ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» c'est juste trop bien. C'est un petit tweet de MDN, la Mozilla. C'est quoi MDN ?
C'est la plateforme de HTML, tout ça, Mozilla, qui voilà, pour tout ce qui est code, tout ça,
de documentation web.
Documentation, ouais.
Qui nous dit que on peut avoir un impact sur les cookies, le storage, le cache. Et donc, en fait, pour faire des logout flows parfaits, on peut utiliser des choses assez intéressantes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ou pas ?
Ouais, c'est une directive. Bah, c'est tout simplement une directive que tu vas mettre dans le header de ton site quand tu as la réponse de la page, qui va dire au navigateur de ton client, enfin le client sur l'ordi, de vider le cache de ton site. Voilà. Donc, moi, je ne connaissais pas l'existence de ce truc. J'ai découvert ça hier. J'ai halluciné. Ce qui veut dire que tout ce qui est PWA, tout ça, où des fois, tu t'es loupé, le cache, tu n'arrives pas à le vider, tout ça, où il n'y a pas de rafraîchissement de la PWA ou quoi que ce soit. Enfin, tous ces problèmes qu'on a de cache et qu'on dit au client, mais je ne peux pas contrôler le navigateur de la personne. Eh bien, en fait, si. Tu peux via cette directive.
Trop bien.
Voilà.
Trop, trop bien. C'est un truc que je vais lire, que je vais poncer parce que ça solutionne beaucoup de problèmes. Et je pense qu'il y a des trucs vraiment très, 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 très intéressants à aller mettre en place pour en fait assurer la pérennité du système de nos services. Et ça, c'est top. Super découverte. Et je suis persuadé que ce truc est en place depuis très longtemps.
Je sais pas depuis quand ça existe, mais en tout cas, c'est un peu bête de pas connaître l'existence. Des fois, comme quoi, des fois les docs c'est important.
Mais on lit pas la doc, donc on sait pas.
Non, jamais.
Voilà, donc c'est normal. Pas de surprise. Allez, petite conférence IA avec des grosses têtes d'affiche. Petite vidéo, tu as fait deux sélections de deux petites vidéos qui font 20 minutes toutes les deux. La première est celle de Louis Knight Web qui fait en fait Web Kanban. Le résumé, c'est quoi ?
C'était une conf sur YouTube, il y a plein de vidéos, elles sont super intéressantes. C'était à Londres, il me semble, et c'était IA Engineer, donc voilà, des confs sur le. Coding avec IA, tout ça, machin. Des méthodes et tout ça, comment faire. Voilà. Et celle-là, c'est une sélection, donc c'est Vibe Kanban, qui est un. Donc eux, ils sont en Angleterre, normalement. C'est un système où tu permettais. En fait, c'est un dashboard où tu vas créer des projets, tu as un Kanban avec la liste de to-do, machin, en cours, etc. Enfin, un truc classique de projet, quoi. Et donc, à partir de là, tu donnais des tâches à des modèles qui allaient exécuter, ça changeait de colonne, etc. Voilà. Donc, c'est top. Ils avaient 30 000 utilisateurs. Donc, ils font un retour d'expérience, tout ça, machin. 30 000 utilisateurs payants à $30. Mais à la fin de la conf, bah, il explique qu'ils arrêtent, qu'ils ferment la boîte. Et qui, donc en live, il met le post sur le blog de, du site en disant on arrête, etc. Machin bidule, c'est malgré ces 30 000. Voilà, c'est fini. Mais Vibe Command devient open source. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir l'utiliser voilà, en open source, self-hosté ou n'importe quoi. Et surtout, il dit un truc qui m'a, voilà, où j'ai bien, enfin, ça m'a marqué un petit peu, c'est aujourd'hui, malgré nos 30 000 à $30, tout ça, machin, on, voilà, c'est pas viable, etc. La boîte, ils avaient des employés, tout ça, hein, c'est pas, c'était une vraie boîte. Il dit, voilà, aujourd'hui, les seuls qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui vendent du token et c'est ceux qui vendent aux entreprises. Voilà.
Eh oui. Mais alors là-dessus, je ne sais pas à qui s'adressait ce produit-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la ruée vers l'or, ceux qui ont gagné de l'argent, c'est pas les chercheurs d'or, c'est les vendeurs de pelles. Vers la ruée, vers l'informatique, vers avec les sites internet dans les années 2000-2010, voilà, celui qui vendait des sites internet, c'est lui qui gagnait de l'argent. Aujourd'hui, dans l'écosystème. Bah, c'est celui qui vend du token qui gagne parce que ton vibe, ton SaaS vibe codé, t'as croqué des tokens. Est-ce que ça va te rendre millionnaire? Ça dépend, mais en tout cas, c'est pas la qualité intrinsèque de ton code, c'est pas ça qui va faire le succès de ta boîte. Et pour le coup, c'est une règle qui est déjà en place depuis des années et je ne pense pas que ça va évoluer vraiment. Les règles sont les mêmes et donc ça ne va rien changer. Aujourd'hui, il y a juste peut-être un glissement. C'est passé des devs, des agences, c'est passé aux consommateurs, aux créateurs de tokens, quoi. Donc... Il y a un mouvement, mais les fondamentaux, en fait, ça reste toujours les mêmes, quoi. Ça reste toujours les mêmes. Est-ce que c'est le vibe coding qui a tué sa boîte? Non.
Non.
Tu vois. Donc, en fait.
Non. En gros, lui, il disait que s'il voulait que la boîte ait une croissance, il fallait chercher les entreprises. Et en gros, soit ils n'avaient pas les moyens de le faire, soit ils n'avaient pas envie. Enfin, bref, voilà. Donc, la seule solution de sa boîte, c'était d'aller chercher les entreprises. Et il disait, de toute façon, notre service, c'est quoi? C'est juste un système qui tu cliques sur un bouton pour lancer un agent. Donc, c'est pas non plus. Enfin, voilà. Il disait, c'est révolutionnaire. Donc, voilà. Donc, ouais. C'est étonnant quand même d'avoir une boîte quand même qui possède 30 000 abonnés, arrêtés comme ça du jour au lendemain. Mais...
Ouais, c'est à la fois surprenant et à la fois ça s'inscrit dans l'air du temps. De toute façon, alors on ne fait jamais de recommandations business sur le podcast, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que développeur, ce que j'appelle les primo-entrepreneurs, en fait, qui sont encore dans une mentalité particulier, c'est-à-dire ils viennent de monter leur activité, j'ai une idée, je vais faire une start-up, machin, tout. C'est la pire des clientèles, c'est très, très particulier.
Ouais, c'est clair.
Et parce que c'est des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, souvent ils sont à court de budget, ils n'ont aucune maturité entrepreneuriale, ça part dans tous les sens. Contrairement à une entreprise qui, elle, a déjà une maturité sur son marché, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait aussi ce qu'elle ne veut pas. C'est beaucoup plus facile à targeter le décideur ou en tout cas celui qui va faire le chèque ou qui va utiliser. Voilà, il y a une sorte de hiérarchie et d'organigramme qui, nous, en termes de business, on peut aller taper et on peut aller discuter directement avec les bonnes personnes. Beaucoup plus facile à vendre et beaucoup plus périn dans le temps en termes de clientèle. En clair, pour faire court, si vous avez un SaaS ou un service qui s'adresse aux clients B2C, donc c'est un business qui va s'adresser à tout le monde, aux particuliers, eh ben, je vous souhaite bien du courage, les gars. J'espère que vous avez un gros paquet de pognon à mettre dans le marketing ça va être très très difficile, mais c'est pas impossible parce qu'il y a plein de boîtes qui le font, donc il faut arrêter de dire que c'est pas possible. Mais selon le scope que vous êtes en termes de développeurs, agences, tout ça, Intéressant de se poser des bonnes questions pour aller targeter les bons clients potentiels ou les bons prospects potentiels.
Ouais, c'est clair. D'ailleurs, et puis surtout, ça n'a pas changé parce que même si avec le vibe coding ou l'agentic coding aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accès, de créer des plateformes, etc., des services, la partie difficile derrière le marketing, la vente, tout ça, ça n'a pas changé. C'est toujours aussi important. Donc,
exactement.
Voilà. En tout cas, Vibe Kanban devient open source et ça, c'est intéressant parce que voilà, je vous invite à aller voir le projet. Il est facilement accessible. C'est un des seuls trucs que j'ai trouvé avec un système de Kanban comme ça. Et voilà, ça peut se self-hoster maintenant, tout ça. Donc, ça peut être pas mal pour gérer des agents, tout ça, des projets à tester.
Yes. Allez, petite vidéo, pareil, de cette grosse conférence de Matt Pocock. Qui est connu en fait pour être le TypeScript wizard où il était à fond sur TypeScript, il faisait du typage high level et là maintenant il s'est réorienté, il se présente d'ailleurs même comme enseignant, il est teacher, il est enseignant.
Ouais,
que ça. Ouais. Et il a une plateforme qui s'appelle AI Hero. Et là, il nous fait une petite conférence où il nous explique quoi.
Alors, déjà, lui, il prône le fait que, tu sais, on dit le code, il ne coûte plus rien maintenant, tout ça. Lui, il dit l'inverse, il dit le code est important, le code coûte, etc. Et il dit que jamais, ça n'a jamais été aussi important, en fait, la connaissance et tout ça des développeurs aujourd'hui avec l'IA. Donc, savoir structurer, savoir relire le code, etc., savoir choisir les bons trucs et tout ça. Donc, il dit, voilà, lui, il prône ça, il dit, c'est hyper important, la connaissance des développeurs, l'expérience, tout ça. Et surtout, là, il explique, en fait, donc, j'avais parlé dans les lives de spec-driven development, des plans et tout ça. Donc, il y a différentes méthodes. Et j'ai fait un article, d'ailleurs, sur double slash là-dessus, sur les différentes méthodes, donc il y a plein de méthodes, des frameworks et tout ça. Lui, il a une méthode qui est un petit peu différente. Il propose plein de skills, et notamment Grimmy. C'est une commande où tu vas lancer et ça va te poser plein de questions sur ce que tu veux faire, etc. Et donc ça peut te poser jusqu'à 80 questions en fait sur exactement ce que tu veux faire, jusqu'à ce qu'il ait épuisé en gros les questions possibles. Et lui, donc, son concept, en fait, c'est d'aligner, en gros, c'est de réussir à aligner la vision du développeur et l'IA, en fait. Qu'elle soit bien alignée, que l'IA sache bien ce que tu veux faire, etc., pour de suite, après, derrière, faire un plan, etc. Voilà. Mm-hmm. Donc voilà, il y a toute une méthode, en fait, qui l'explique, tout ça. Donc c'est vachement intéressant. Il y a la boucle de... Comment ça s'appelle déjà j'ai oublié le nom. il y a une boucle en fait que tu peux lancer. Ça a été lancé par Claude Code aussi, ça. J'ai oublié le nom, mais en gros, tu vas lancer une boucle. Alors, lui, il a une boucle en bash qui va lancer, qui va prendre les issues les unes après les autres, en fait, les tâches les unes après les autres, et l'agent va les exécuter avant de passer à la suivante, etc. Bon, voilà, il y a plein de concepts, tout ça, vachement intéressant. En gros, Matt, il est super... il est très bon pédagogue, franchement, très bon. Et je trouve que ce qu'il raconte, c'est intéressant. Voilà.
Ok. et pour ceux qui veulent aller voir, on mettra évidemment le lien de toutes ces conférences pour ouais. on les mettra dans les liens de l'épisode, évidemment. Top, Patrick, on en reste là pour cet épisode de mai 2026.
Non, mais...
ouais, on est en mai. On est en mai. On en reste là. On revient avec d'autres épisodes. Ouais. Je suis de retour. La saison d'hiver étant terminée. Donc, bon. Je suis retourné.
T'es plus dans ton appart.
À la ville. Exactement. Et maintenant, j'ai un vrai appart. Tout, donc, c'est bien cool. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont restés là jusqu'au bout de l'épisode, comme d'habitude. Merci aux sponsors. Merci de vos commentaires, vos petits pouces, vos petits likes. Vous connaissez la musique. Et nous, dans tous les cas, on vous dit à très vite. Ciao, ciao.
Yes, à plus.